La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous poursuivons notre émission introductive de cette semaine consacrée à Jean Genet avec Albert Dichy, l'un des grands spécialistes de l'écrivain, responsable du fonds Genet à l'IMEC.
Presque toujours seul, mais aidé d'un idéal compagnon, je traversais d'autres frontières. Mon émotion était toujours aussi grande. Je franchis toutes sortes d'Alpes, de Slovénie en Italie, aidé par les douaniers, puis abandonné d'eux, je remontais un torrent bourbeux. Combattu par le vent, par le froid, par les ronces, par novembre, j'atteignis un sommet derrière quoi était l'Italie. Pour la gagner, j'affrontais des monstres cachés par la nuit ou révélés par elle. Je fus pris dans les barbelés d'un fort où j'entendais marcher et chuchoter des sentinelles. Le cœur battant, accroupi dans l'ombre, j'espérais qu'avant de me fusiller, elle me caresserait et m'aimerait. Ainsi la nuit, je l'espérais peuplée de gardes voluptueux. Je m'aventurais au hasard sur un chemin. Il était bon. Je le devinais à la reconnaissance de mes semelles sur son sol honnête.
Un extrait du journal du voleur de Jean Genet, lu par Richard Leduc. Quel type de plaisir ça procure pour vous, la lecture de Jean Genet ou son écoute, comme on vient de le faire à l'instant ?
Je découvre toujours de nouvelles choses, évidemment. Il y a, surtout quand c'est lu par un comédien qui y ajoute sa propre lecture, sa propre interprétation. Donc, c'est parce que Genet a une phrase qui est étonnante, qui est remplie de surprises, de bifurcations, et donc il y a toujours quelque chose de neuf, c'est d'une très grande densité, donc au fond on n'a jamais fini de lire Genet.
Alors, ce journal du voleur dont on vient d'entendre un extrait, il date de 1949. Il y avait un second tome qui était annoncé, mais qui ne verra jamais le jour. Et 1949, c'est la date qui marque la fin de sa première et principale période de créativité. Il faut en parler justement de ses premiers romans et raconter aussi comment ils ont été publiés pour la plupart clandestinement. Il y a seulement un éditeur qui a eu finalement le courage de publier un des livres de Genet durant cette époque où ils sont écrits et qui correspond avec la période de la Seconde Guerre mondiale, Albert Dichy.
Oui, et encore ce livre était distribué sur souscription, donc il n'était même pas en vente ouverte. Ces livres, avant d'être diffusés clandestinement, ils ont été écrits aussi clandestinement. C'est-à-dire que Genet, les deux premiers livres sont écrits en prison. Au début, les premières lignes de Notre-Dame des Fleurs, son premier livre, sont écrites sur du papier détourné, des sacs. On faisait faire des sacs aux prisonniers, et donc Genet avait pris des sacs pour commencer à écrire son texte, qui a été saisi, et il a été puni pour détournement de biens appartenant à la communauté. Ces livres sont écrits d'abord par quelqu'un qui ne pensait pas qu'il serait un jour publié. C'est-à-dire qu'il...
Ce qui lui donne une très grande liberté, d'ailleurs, il l'a expliqué.
Ce qui lui donne peut-être parfois une trop grande liberté parce que il n'a aucun garde-fou. Et lui-même dit, j'écris sans précaution. À la fois, bien entendu, avec une liberté totale sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan, de la pensée, Il écrit en pensant que, même s'il l'espère quand même, parce que quand on écrit, on espère quand même, malgré tout, à un certain horizon, on espère toujours être lu, mais il écrit en pensant que ses livres sont impubliables. Et il l'écrit dans la continuité de ses rêves de prison, d'une certaine façon, pour enchanter sa cellule.
Mais en même temps, Jean Genet n'est pas homme à faire des compromis, et... Probablement que, même s'il avait su avec certitude qu'il serait publié. Il aurait voulu écrire le même texte, car c'est ce texte-là qu'il avait le besoin d'écrire.
Bien sûr, mais je pense que quand on écrit pour des lecteurs, on est déjà pris dans un cercle social. Il l'a écrit en dehors de ce cercle. Et c'est pour ça aussi que, d'une certaine façon, on peut lire dans son œuvre une sorte de montée en violence de l'œuvre. Notre-Dame des Fleurs et Miracle de la Rose, qui sont vraiment écrits en prison, sont encore teintés de douceur, de mélancolie. Mais quand on arrive déjà à Pompes Funèbres, Querelle de Brest, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus violent, parce qu'il pense à ce moment-là qu'il pense pas qu'il pourra être jamais publié hors de la clandestinité.
Et puis les bonnes aussi qui datent de cette époque-là.
Alors les bonnes, c'est déjà un autre chose. C'est-à-dire que les bonnes, il a déjà une commande. Pas celle de n'importe qui, de Louis Jouvet, qu'il a rencontré à travers Cocteau. Louis Jouvet, qui est à ce moment-là le metteur en scène le plus connu de France, qui est à la recherche d'un jeune auteur pour un petit peu transformer son image auprès du public. C'est plutôt le public de la bonne bourgeoisie, c'est celui de Giraudoux. Et donc, il cherche un jeune auteur et il tombe sur Genet parce que, un peu par hasard, et lorsqu'il monte Les Bonnes, Jouvet ne comprend rien à la pièce qu'il monte. Il la décrit comme la tragédie des confidentes, et on peut retourner la pièce dans tous les sens. La tragédie des confidentes ne lui va pas.
Mais alors là, Albert Dichy, on est passé de Genet écrivant seul dans sa prison, subissant des brimades, à Genet monté dans le tout Paris, d'une certaine façon, connaissant Cocteau, et puis connaissant Sartre. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, qui a transformé ce parfait inconnu en une espèce de coqueluche du Paris de cette époque-là?
Ça, c'est le passage de Genet, c'est-à-dire que Genet, il a cette chose assez rare dans la littérature, c'est-à-dire qu'il passe du dernier échelon social. Quand il commence à écrire, il est en prison, il risque la prison à perpétuité, il n'a aucun espoir de s'en sortir, il ne connaît presque personne. Et d'un coup, je dirais vraiment, avec un retournement incroyable, Cocteau raconte qu'un jour, Genet sort de prison, et le soir même, il le prend place des États-Unis chez la comtesse de Noailles, où il y a la reine d'Angleterre qui est présente, et Genet salue la reine d'Angleterre. Il sort le matin même de prison. Donc, on a le passage du dernier échelon au premier échelon, parce qu'en France, il y a cette grâce extraordinaire en France, et qu'on considère qu'un écrivain qui est un grand écrivain est l'égal des plus grands, il franchit ce cap-là, et effectivement, à partir d'un certain moment, je dirais pas qu'il se socialise, mais quand même, les bonnes sont écrites pour un public.
Mais ça va le détruire aussi, ce passage si rapide, cette ascension si rapide, et aussi le fait d'être adoubé par Jean-Paul Sartre. Alors, on sait qu'il va arrêter d'écrire pendant un moment, pendant même de nombreuses années, 6 ans, je crois. Est-ce que cette mise comme ça sous les lumières ne l'a pas en partie brûlé?
Ah, bien sûr, bien sûr. Pour lui, au fond, réussir était une catastrophe. Toute son œuvre était écrite contre cela. Et donc, il lui faut du temps. Il va le prendre 6 ans de silence. 6 ans de silence pendant lequel il essaye d'intégrer le fait qu'il est devenu un écrivain. Et en plus, il est libre, donc il a obtenu une grâce présidentielle qui, avec la remise des peines qui lui restaient à purger.
Que ses amis, justement, Jean Cocteau, ont
une formidable pétition
auprès du président.
Voilà. Et donc, pour lui, c'est à la fois sortir, au fond, il aimait la prison, mais il voulait aussi en sortir. Mais en même temps, comment intégrer le fait qu'il est devenu un écrivain comme un autre? Ça, c'est très difficile pour lui. Mmh. Et la façon dont il va s'en sortir, c'est par le biais de la du théâtre.
Oui. Alors pour rester un tout petit peu sur la première période et la période que Sartre a analysée dans son livre très célèbre Saint-Genest,
Comédien et martyr,
qui représente le tome 1 des œuvres complètes de Jean Genet. Alors ça c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que on est obligé d'attendre le tome 2 à cette époque-là pour commencer à lire les œuvres de Jean Genet dans ses propres œuvres complètes. Vous pouvez peut-être en dire un mot d'ailleurs, Albert Dichy. Et puis il y a cette thèse de Sartre sur l'homosexualité de Genet quand il explique que finalement Genet est devenu, je cite, pédéraste parce qu'il était voleur, Albert Dichy.
Oui, alors le livre de Sartre, il est, évidemment, il explose dans la vie de Genet comme une bombe. C'est-à-dire que Sartre est le plus grand philosophe en tout cas le plus connu. Et d'un coup, il le place sur le parvis, et effectivement, par un livre qui est inscrit dans ses œuvres complètes, qui se vend mieux que les propres livres de Genet, et en même temps, il atteint un public, évidemment, beaucoup plus large à travers Sartre. Mais évidemment, la vision que Sartre donne de Genet, même si Sartre est évidemment un homme, généreux, révolté lui-même,
avec une vie quand même absolument à l'opposé de celle qu'a vécu Genet.
Oui, bien sûr, mais ils se rejoignent aussi sur certains points. Mais malgré tout, Sartre essaye de, au fond, d'expliquer, voilà. Il essaye d'expliquer, pas simplement l'œuvre, mais l'homme, l'homosexualité, le vol,
Il l'explique bien, selon vous ?
C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'œuvre, dans le livre de Sartre, c'est que c'est un livre qui est occupé par un souci délirant d'explication. Et global. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Il veut tout comprendre.
Oui, donc il y a une intention du coup qui est peut-être un petit peu trop poussée.
Ah oui, et puis Genet est opaque. Genet n'est pas si simple à saisir. Et Sartre, il a un désir peut-être trop fort. Et donc du coup, parce qu'il explique aussi, il fait le portrait de Genet en train d'écrire. Il parle du livre qu'il va publier bientôt, de l'œuvre qu'il va accomplir. C'est-à-dire que lorsque Sartre publie Saint-Genest, Genet n'a commencé à écrire que depuis 8 ans, et déjà, il est complètement pris sa vie entière dans le portrait que Sartre en fait.
Donc encore une fois, il s'échappe, il se tait pendant de nombreuses années, et il revient comme dramaturge. Qu'est-ce qui se passe là entre 1956 et 1961, où il écrit Le Balcon, Les Nègres, Les Paravents? C'est une renaissance, mais sous une autre forme. Il a vieilli, il a mûri, et il peut se réexprimer, mais avec une littérature qui va être beaucoup plus politique, et puis qui sera, encore une fois, de l'ordre du théâtre et plus du roman.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'être dans un rapport frontal avec le lecteur, comme il l'était dans les romans, Genet travaille la représentation sociale. Et donc c'est plus une oblique, ou en tout cas une lutte oblique qu'il mène, c'est la représentation, et cela apparaît de façon très évidente dans Les Paravents, où on a toutes les composantes de la société française prise dans la situation de la guerre d'Algérie qui est représentée.
Et il s'agit de dévoiler la mécanique du pouvoir.
Voilà, c'est aussi ce que Le Balcon tente d'une certaine façon.
Oui. Et alors, évidemment, Les Paravents, ce sera un scandale pour Edmund White, aussi important que la bataille d'Hernani ou la première du Sacre du Printemps. C'est vrai qu'on s'était battu sur les trottoirs et peut-être même dans la salle le jour de la première représentation.
Puis il y avait à la tête du cortège du mouvement Occident, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était là. Dans le cercle de ceux qui défendaient le théâtre, il y avait un certain Daniel Cohn-Bendit qui va s'illustrer à l'Odéon 2 ans plus tard. Il y avait Patrice Chéreau.
Qu'est-ce qu'il va faire pendant mai 68 alors? Parce qu'on imagine que cette insurrection-là a dû lui plaire à Jean Genet et Albert Dichy.
C'est-à-dire qu'en mai 68, Genet est à ce moment-là dans un grand creux de sa vie. D'une part, il y a le funambule dont il était très amoureux, Abdallah, qui s'est suicidé quelques temps plus tôt. Et d'autre part, son œuvre littéraire est en panne. Et brusquement, la révolte de mai 68 le réveille. C'est-à-dire qu'il... Brusquement, je pense qu'il se rend compte à ce moment-là, et c'est pour la première fois, il est déjà un écrivain très connu, que sa révolte individuelle peut s'articuler, se conjuguer à des révoltes collectives.
D'ailleurs, ce sera de plus en plus comme ça au fur et à mesure de sa vie.
Ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie.
Et on peut citer, par exemple, en 1982, 4 heures à Chatila, qui est l'un des acmés, finalement, de cet engagement. Alors, il s'est engagé pour les Black Panthers, il s'engage pour les Palestiniens, et ça va devenir le cœur de sa vie. Et puis, il va devenir ce personnage-là aussi.
Oui, c'est-à-dire que, d'une certaine façon... Il va surfer sur ce qu'il appelle les mouvements, puisque pour lui c'est pas les Palestiniens ou les Black Panthers, c'est pas tellement des partis ou des groupes politiques, c'est des mouvements. Il dit des mouvements. Donc il a besoin de cela et il procède à une sorte de d'échange, c'est-à-dire que les mouvements lui donnent un désir de vivre de nouveau, et lui leur donne ce qu'il peut donner, c'est-à-dire des textes.
Enfin, tout de même, le désir de vivre, il est bien tempéré par un fond de dépression qui l'accompagne quand même toute sa vie, qui va aussi être aggravé par le fait qu'il tombe malade d'un cancer de la gorge au début des années 80, et à un entretien, qui est le dernier, je crois, donné à la BBC en 1985, au journaliste qui lui demande quels sont vos projets, Jean Genet, il répond tout simplement « j'attends la mort ». Mais il y a quand même voilà, ce fond très grave chez Jean Genet, durant toute sa vie.
Personnellement, je ne crois pas trop à la question de la dépression chez Genet, parce que au fond, Genet n'est jamais aussi fort que quand il est en situation difficile. Je veux dire, toute son œuvre a consisté à renverser la situation. Il est en prison et il la renverse. Il est malade, il a un cancer à la gorge, et c'est à ce moment-là qu'il écrit le livre le plus important en volume et l'un des plus beaux livres qu'il ait écrit, comme si au fond...
Un captif amoureux.
Comme si au fond il ne pouvait écrire que lorsqu'il était condamné. Alors d'abord par la justice, ensuite par la maladie. Et je pense que ce mouvement de renversement, on a retrouvé un livre de Genet dédicacé à Sartre, et Genet le dédicace en lui disant... de la part de Jean Genet, qui est à la fois le plus faible et le plus fort. C'est parce qu'il est le plus faible qu'il est le plus fort.
Pour vous, Albert Dichy, ces livres, ce sont d'abord des livres enchantés, des livres réjouissants malgré tout?
Oui, moi je pense qu'il y a une allégresse dans l'écriture de Genet, dans son œuvre. Il y a évidemment des points sombres, mais il y a une formidable vie qui traverse toute son œuvre.
Merci beaucoup, Albert Dichy. Et je rappelle qu'on peut lire de vous le livre Jean Genet, matricule 192-102, chronique des années 1910-1944, paru en 2010 chez Gallimard. Vous avez également participé, entre autres, à l'édition des œuvres de l'écrivain dans la bibliothèque de la Pléiade.